France Musique.
Bonjour à toutes et à tous. Nous avons appris jeudi dernier la disparition de Bertrand Tavernier. Le cinéaste était un mélomane averti qui choisissait avec soin les musiques qui portaient ses films. Il dénichait des partitions anciennes, il convoquait des grands musiciens de jazz. Nous avons donc le plaisir de réentendre Bertrand Tavernier dans l'émission Musique et moi qu'il avait enregistrée aux côtés d'Elsa Boublil. C'était en février 2017. Bonne écoute.
Musique et moi.
Bertrand Tavernier.
Elsa Boublil.
Chacune à son tour et l'une après l'autre.
Coup de torchon dans la scène avec le missionnaire.
Du lundi jusqu'au samedi pour gagner des radis. Quand on a fait sans entrain son boulot quotidien, subit le propriétaire, le percepteur, la boulangère. Et trimballer sa vie de chien. Le dimanche vivement, on file à nos gens. Alors brusquement, tout paraît charmant. Quand on se promène au bord de l'eau, comme tout est beau, quel renouveau. Paris au loin nous semble une prison. On a le cœur plein de chansons. L'odeur des fleurs nous met tout à l'envers. Et le bonheur nous saoule pour pas cher. Chagrins et peines de la semaine, tout est noyé dans le bleu, dans le vert. Un seul dimanche au bord de l'eau, au trémolo des petits oiseaux, suffit pour que tous les jours semblent beaux. Quand on se promène au bord de l'eau, je connais des gens qui, à part d'eux, qui tout le temps se font des cheveux et rêvent de filer ailleurs dans un monde meilleur. Ils dépensent des tas d'oseilles pour découvrir des merveilles. Ben moi ça me fait mal au cœur, car y a pas besoin pour trouver un coin où l'on se trouve bien de chercher si loin. Quand on se promène au bord de l'eau, comme tout est beau, quel renouveau. Paris au loin nous semble une prison. On a le cœur plein de chansons. L'odeur des fleurs nous met tout à l'envers. Et le bonheur nous saoule pour pas cher. Chagrins et peines de la semaine, tout est noyé dans le bleu, dans le vert. Un seul dimanche au bord de l'eau, au trémolo des petits oiseaux, suffit pour que tous les jours semblent beaux. Quand on se promène au bord de l'eau.
Jean Gabin dans la bande originale du film de Julien Duvivier, La Belle Équipe. Pour vous saluer, Bertrand Tavernier, cette voix jeune et presque méconnaissable et qui roule des airs aussi de Jean Gabin, pour nous replonger dans le cinéma des années 30, pour vous qui êtes un grand cinéaste mélomane ou un mélomane cinéaste cinéphile, en tout cas un cinéaste passionné de cinéma, réalisateur l'année dernière d'un merveilleux voyage à travers le cinéma français, nommé au César dans la catégorie meilleur documentaire et qui vient de recevoir le prix Lumière lumière, qui est une sorte de Golden Globes français, c'est ça?
Exactement, c'est formidable d'être récompensé par la presse étrangère pour un film sur le cinéma français. Et j'ajoute que cette chanson est écrite par Julien Duvivier. On oublie très souvent, quand on parle du cinéma français, que beaucoup de réalisateurs ont écrit des paroles de chansons. Je crois que c'est unique. Il n'y a pas d'autre cinéma national qui a eu autant de chansons, de René Clair à Jean Renoir, d'Agnès Varda à Jacques Demy, en passant par Sacha Guitry, Jean Boyer, Henri Colpi. Le cinéma français est plein de chansons dont certaines ont été des succès mémorables, énormes succès. Un mauvais garçon, parole de Jean Boyer.
Ce film-là, on en garde surtout cette chanson en tête quand on...
Oh, on garde aussi, c'est un film sur qui parle du Front Populaire, qui parle de solidarité, même si c'est un échec. Et on en garde aussi le souvenir que les 9/10 du film est un film admirable, même si la fin est contestable.
En tout cas, dans votre voyage à travers le cinéma français, vous nous racontez, comme vous venez de le faire, l'histoire du cinéma. C'est un périple de 3 heures au cœur du cinéma français des années 30 aux années 70, dans lequel, pour évoquer notamment ce qui nous intéresse ce matin, la musique occupe une place centrale.
Oui.
On dirait que la musique est presque aussi importante que le reste.
Mais c'est très très important et j'avais envie, moi, dans ce film, de rendre hommage à des compositeurs géniaux qui sont toujours oubliés dans les histoires du cinéma. On parle finalement très peu de Maurice Jaubert, de Cosma, de Grunewald, de Doric, de Jacques Ibert, de Dutilleux. Et on ne parvient pas à trouver de disques, par exemple, sur la contribution de Honegger, de Darius Milhaud, à la musique de film.
Alors, je vous cite, parce que dans la bande originale du film que vous avez réalisé, il y a une petite note qui reprend vos mots. « Je voudrais que ce film soit un geste de gratitude envers tous ceux cinéastes, scénaristes, acteurs et musiciens qui ont surgi dans ma vie. Oui. » Alors, on a du pain sur la planche ce matin, car tout est lié, imbriqué à part égale. Oui. Alors, à qui s'adresser ce matin? Est-ce que je m'adresse aux cinéphiles, aux mélomanes, aux réalisateurs de ce documentaire encyclopédique et passionnant, ou aux réalisateurs de films comme « Le juge et l'assassin »,« Un dimanche à la campagne », »,« Autour de minuit », L627, Capitaine Conan, ou encore Coup de torchon que vous citiez en début d'émission, Bertrand Tavernier. Pourquoi cette phrase, chaque chose en son temps, chacune à son tour et l'une après l'autre?
Je trouve que c'est une phrase géniale, écrite par Orange, Jean Orange. Oui.
Avec qui vous avez beaucoup travaillé.
Oui, c'est une espèce de phrase où l'idée de répéter 3 fois la même chose dans le même me ravit. Et c'est quand on est énervé, qu'on a à faire beaucoup de choses, tout d'un coup se répéter cette phrase et elle est devenue culte dans mon équipe.
Alors, comme on a énormément de choses à se dire ce matin, je propose qu'on fasse chaque chose en son temps, chacune à son tour,
et
l'une après l'autre.
Oui, oui.
Et on va commencer par la Symphonie du Nouveau Monde de Dvorak, composée en 1893, alors que Dvorak vivait à New York, où il enseignait au conservatoire. Elle a été jouée la même année au Carnegie Hall. C'est un succès immédiat, devenu peut-être la plus connue de ses symphonies. On connaît les génériques télé qui s'en sont inspirés. Oui. Et on va, nous, entendre le premier mouvement que Serge Gainsbourg a savamment réutilisé dans sa chanson Bibi Nichols pour continuer de faire ses ponts comme vous les faites si bien. C'est une symphonie inspirée par le jazz, le blues, le gospel et les chants d'Indiens qu'il a découvert sur place et qui a elle-même inspiré d'autres personnes par la suite. Je trouvais que c'était bien pour vous, Bertrand Tavernier, pour commencer. L'Adagio Allegro Molto de la Symphonie du Nouveau Monde de Dvorak par l'Orchestre de la Radio Symphonique de Berlin sous la direction de Laurine Mazel. Pour commencer avec vous, Bertrand Tavernier, puisque ça fait partie de vos premiers émois musicaux, ça date de quelle époque de votre vie?
Oh là, c'était très tôt. C'était, je vais avoir 14-15 ans quand j'ai... Je crois que c'est le premier disque classique que j'ai acheté à la Guilde du Disque.
À Paris?
Oui, oui, qui était rue de Rivoli et où j'ai acheté énormément de disques.
Mais comment avez-vous choisi ce titre-là en particulier?
J'aimais beaucoup le titre, Symphonie du Monde. Puis je crois que j'avais dû entendre des extraits à la radio.
Ouais. Est-ce que vous écoutiez beaucoup la radio?
J'écoutais beaucoup la radio. Et c'est une musique très descriptive, très lyrique. J'y retrouve ce que j'aimais dans le cinéma américain, tout d'un coup, dans ce film. J'ai l'impression de découvrir les paysages des westerns en écoutant ça. Évidemment, c'est une musique. Après, je découvrais que des gens comme Pierre Boulez doivent froncer les sourcils et détester ça. Mais je continue à penser que Dvorak est un super compositeur, qu'il a écrit des tas d'œuvres formidables. Et je suis revenu vers lui pour quelquefois des œuvres de musique de chambre aussi. Et la même chose pour Rachmaninov. La même chose pour Rachmaninov, c'est des compositeurs qui vous amènent à la musique et après on découvre autour de vous qu'il y a plein de beaux esprits qui vous expliquent que c'est pas moderne, que c'est horrible, que c'est que ça. Et puis à un moment, vous dites, finalement, un, j'aime ça. Deux, ces gens-là ont aussi composé des morceaux très très rares. Il y a des quatuors de Dvorak qui sont splendides, splendides, splendides.
Mais alors vous, Bertrand Tavernier, votre culture musicale, vous l'avez faite tout seul. Votre père qui était, poète notamment, et
oui,
éditeur.
Oui, mais il jouait du violon. Ouais. Mon père, ma grand-mère, parfois m'ont aiguillé, m'ont poussé vers certains compositeurs, m'ont fait connaître. Et j'étais inscrit au JMF.
Aux Jeunesses Musicales de France.
Eh oui. Donc, j'ai été écouter beaucoup de concerts. J'ai même été à l'opéra voir une version des Contes d'Hoffmann, je me souviens. J'ai même eu un moment, un spectacle inouï. Inouï. Je connais peu de gens qui y étaient. J'étais à la salle Gaveau. C'était Miles Davis, présenté par Bernard Gavotti. C'était le choc entre deux mondes, absolument, qui n'avaient rien à se dire et qui ne pouvaient pas se comprendre. C'était inouï. Donc j'allais beaucoup, les JMF, j'ai été à beaucoup, beaucoup de concerts, dont certains de concerts où il y avait des explications de textes qui étaient par des musicologues qui étaient intéressants. C'était un très bon éveil à la musique.
Alors
les JMF.
Est-ce que ce sont les JMF qui vous ont éveillé à Daphnis et Chloé de Ravel?
Non, ça, moi j'y suis allé, je crois que j'ai été très très vite attiré par Ravel. Je pense que c'est Duke Ellington qui m'a amené à Ravel.
Ah! Alors, oui. On va pouvoir en parler, parce que dans peu de temps, on va écouter Duke Ellington.
Mais c'est vrai que...
Donc, c'est dans ce sens-là.
C'est dans ce sens-là, c'est que des musiciens de jazz m'ont amené vers... Duke Ellington m'a entraîné vers Ravel et vers Stravinsky.
Alors bon, je vous propose d'écouter La Danse Guerrière, cette scène captivante qui traduit le danger qui apparaît dans ce ballet en un acte de Maurice Ravel, donc Daphnis et Chloé, et qui évoque des temps et des lieux à la fois concrets et imaginaires, donc pour l'imagerie justement dont vous parliez à l'instant.
Alors moi j'avais une version dirigée par Charles Munch.
Eh bien là, ce sera Myun Woon Chung, et l'Orchestre Philharmonique de Radio France, vous verrez, c'est une très belle interprétation.
Thank you.
La danse guerrière de Daphnis et Chloé de Ravel par l'Orchestre Philharmonique de Radio France sous la direction de Myung-Hoon Chung. Et je vous voyais réagir, Bertrand Tavernier.
Ah oui, oui, j'ai une... Mais très tôt, j'ai éprouvé une passion qui n'a jamais cessé pour Ravel.
Et cette interprétation-là, vous a...
Je la connaissais pas, je la trouve formidable. Mais je pense que quand on fait du cinéma, quand on écrit, on a tout à apprendre de Ravel. La manière dont il distille les émotions, il les retient, la manière dont, quand on fait des films un peu choraux, on s'aperçoit, lui, c'est son génie d'orchestrateur va tout d'un coup mettre en valeur un instrument, puis un autre, puis
comme
les combiner.
Oui.
C'est formidable. Sautet, à qui je parlais souvent de musique, disait que...
Qu'il y avait une passion pour Ravel, hein, d'ailleurs.
Oui, Ravel et Bach. Et quand on lui disait, mais pourquoi ces deux-là, il disait, la percussion. Le sens de la percussion. C'est deux auteurs qui ont un sens percussif extraordinaire.
Et le rapport avec le cinéma, dans ce cas-là, percussion?
Ben, la percussion, c'est le rythme. C'est le rythme interne. Ça ne veut pas dire, faut pas confondre ça avec, la vélocité. La percussion, c'est de trouver le rythme intérieur d'une œuvre.
Elsa Boublil, Musique et moi, France Musique.
Bertrand Tavernier, vous parliez tout à l'heure de Duke Ellington qu'on va écouter à l'instant. Vous disiez, c'est Duke Ellington qui m'a fait aimer Ravel. Et moi, je pense à Ravel qui rêvait d'aller aux États-Unis. Et quand il y a été, il rêvait de rencontrer Gershwin pour pouvoir s'inspirer de lui. Et Gershwin lui a dit, mais vous rigolez, c'est moi qui rêve de vous rencontrer et non pas l'inverse.
Oui.
Alors vous, comment ça s'est passé? Parce que c'est exactement la rencontre de ces deux mondes.
Oui, oui, c'est... autant je disais que le premier... disque classique, c'était le Dvorak, et suivi de Rimsky-Korsakov. Le premier disque de jazz que j'ai acheté, il y en a eu deux 45 tours, il y avait un de Charlie Parker, et il y avait Duke Ellington. Et Duke Ellington, après, j'ai continué. Et mon père aussi avait acheté des 30 centimètres de Duke Ellington, parce qu'à l'époque, c'était le long playing.
Mmh.
Et il y avait des morceaux qui m'ont entraîné vers Ravel. Une façon, justement, de combiner des instruments, une façon de mélanger des voix dont on n'a pas l'habitude. Pour ça, mais très tôt dans sa carrière, Ellington était une forme de génie où il pouvait combiner une clarinette basse, un saxophone alto, et un trombone avec sourdine et trompette bouchée. Et il pouvait faire exposer des thèmes avec ces quatre instruments qui se répondaient et ça donnait des sonorités extraordinaires. L'utilisation de la clarinette basse chez Ellington était quelque chose de formidable. Et ça, pour ça, ça me renvoyait à la manière dont Ellington, qui a été un des premiers musicien à utiliser le saxophone et à faire rentrer le saxophone dans l'écriture symphonique.
Alors pour le sens de la dramaturgie, puisque visiblement c'est ça qui vous plaît, notamment dans la musique de Ravel, il était très fort pour cela, Duke Ellington, puisque le morceau que vous avez choisi en particulier, Such Sweet Thunder, est un morceau composé par Duke Ellington, inspiré par le drame shakespearien Othello, dont la dramaturgie était selon... Duke Ellington, tellement convaincante, douce et chamboulante. Je propose qu'on l'écoute. Ça a été enregistré en avril 57 pour le festival shakespearien de Stratford en Ontario. Duke Ellington and his orchestra. le grand Duke Ellington qui terminait ce morceau Such Sweet Thunder.
L'accord pianistique final est formidable.
Oui, c'est vrai. Et la place du piano d'ailleurs dans ce morceau, Bertrand
Tavernier.
Comme
toujours, chez Ellington, à un moment, tout d'un coup, les contrepoints qu'il fait au piano, c'est... Est-ce que c'est lui ou Billy Strayhorn? Je ne sais pas, puisqu'ils
C'est lui, dans ce morceau-là, c'est lui.
Parce que, oui, mais ils étaient interchangeables. Strayhorn jouait comme Ellington aussi, c'était formidable. Alors ce morceau, moi, je l'ai écouté lors de ce qui a été sans doute la première représentation publique européenne où il a joué, il a créé cette suite. C'était à Chaillot, mon père m'avait emmené pour que j'écoute Ellington, et c'était le morceau qui ouvrait le concert. Et là, je dois dire qu'à partir de ce moment-là, j'ai décrété que je serais amoureux à vie de Duke Ellington, que ça y ferait partie de mes idoles, que j'achèterais tous ses disques, que j'essayerais de le rencontrer, ce que j'ai pas pu. Et je regrette énormément. Et j'ai une vénération qui n'a pas cessé.
Est-ce que vous pouvez expliquer d'où vient cette vénération, Bertrand Tavernier?
Son imagination extraordinaire, son talent de compositeur. Il est l'auteur d'une centaine de mélodies qui sont incroyables. Et après, de les arranger, de les recréer, ces batailles pour faire prendre le jazz au sérieux, et aussi des combats pour son peuple, pour les gens de couleur. Donc Ellington, c'est un homme qui est mort. Il aimait tellement la musique que quand il est mort, il continuait à écrire des notes, des bouts de mélodie sur tout ce qu'il trouvait, donc sur les feuilles de température.
De prise de température. Alors, oui. Bertrand Tavernier, vous qui avez été au JMF, qu'est-ce qui a fait que le jazz vous a pris de cette manière-là?
Je ne sais pas. J'ai tout de suite eu une passion pour ça. J'ai une passion aussi bien. Je suis resté fidèle à des musiciens de la Nouvelle-Orléans ou à des grands musiciens que j'ai découverts. Armstrong reste pour moi l'un des plus grands musiciens de jazz de tous les temps. Armstrong et Béchette, c'est quelque chose de prodigieux. Aussi bien que assez tôt, je vais découvrir des musiciens qui étaient détestés par les traditionnalistes. Et ça, ces querelles de clans m'ont énervé. Et très souvent, j'ai vu que les musiciens étaient tout à fait au-delà des querelles et qu'ils pensaient de manière moins obtuse que les critiques, que notamment Hugues Panassier qui condamnait tous les...
Il était terrible, Hugues Panassier.
Oui, mais il a été formidable pour une époque. Mais après, c'est de décréter que à partir d'une année, les types n'ont plus de talent, ne font plus de jazz, et surtout que les musiciens de blanc n'ont pas de talent. Et ils passent à côté de Benny Goodman, qui a quand même été un type formidable, et dont Dexter Gordon m'a dit que par rapport à la lutte des Noirs, il a joué le rôle de Martin Luther King dans le monde du jazz, Goodman.
Ah oui.
Qu'il a été formidable. Et donc voilà, je découvrirai très tôt Parker, Monk, Mingus, des gens comme ça, en même temps que je vais découvrir Schoenberg, des musiciens très modernes.
Des compositeurs très modernes, oui. Bertrand Tavernier, est-ce que c'est au même moment que vous découvrez le cinéma ou l'un est antérieur?
C'est en même temps. Oui. C'est en même temps, je m'amuse toujours à dire que j'ai découvert le cinéma américain, John Ford, en même temps qu'Armstrong et Béchette. Et que pour moi, il y avait un rapport très fort entre l'émotion qui émanait du jeu d'Armstrong et de Béchette et l'émotion que je trouvais dans les films de John Ford.
Alors on va pouvoir parler dans quelques instants du lien entre le jazz, la musique et le cinéma. En attendant, on va écouter « Touchez pas au Grisby », la bande originale du film de Jacques Becker, avec Jean Wetzel qui a l'harmonica, qui interprète ce thème si connu. Jean Wiener aussi est au piano, il me semble.
Oui.
Et là, on est dans le cinéma de Jacques Becker en 1954, qui nous conduit droit vers le lien entre le jazz et le cinéma notamment.
Thank you.
Jean Wetzel et Jean Wiener dans cette musique de Touchez pas au Grisby de Jacques Becker, sortie en 1954 avec Lino Ventura et Jean Gabin. Il y a quelque chose de l'ordre du jazz, il y a de l'improvisation là-dedans.
Il y a en tous les cas, il y a le feeling.
Et puis ça swing, quoi.
De jazz. Alors c'est un morceau qu'on a retenu dans le double CD qui s'appelle Voyage dans le cinéma français, qui rend hommage à ses compositeurs. Il s'est passé une chose étrange sur ce film, parce que ça, c'est normalement, dans l'esprit de Wiener, ça devait être un des morceaux du film. Et Becker n'a gardé que ça et a éliminé 30 minutes de musique qu'il n'a pas voulu retenir au désespoir de Wiener.
Ah oui.
Donc, en fait, on n'a jamais entendu la musique de Touchez pas au Grisby en dehors de ce morceau.
Mais
ça a été un trait de génie de Becker de dire ça suffira.
C'est ce que j'allais dire, parce que ça fait l'identité du film.
Ça a fait l'identité du film que peut-être une partition après symphonique aurait déstabilisé. Et là, c'est à la fois le génie de Wiener d'avoir composé ça, de le jouer magnifiquement avec Jean Wetzel, mais aussi c'est le sens dramaturgique de Becker qui se dit « cette musique va faire le film ».
Alors, j'ai envie d'en parler un peu avec vous, Bertrand Tavernier, parce qu'on sait à quel point vous attribuez une importance à la musique dans le cinéma.
Oui.
Comment est-ce que vous expliquez qu'une musique peut à ce point marquer un film ou pas, d'ailleurs ?
Ben, vous savez, je peux pas plus l'expliquer de comment expliquer qu'un film ou qu'un livre va marquer ses lecteurs. S'il entre, alors une part qui peut être appelée le talent, le génie, les circonstances, que le sujet est évoqué et recréé au moment où il faut pour l'imaginaire des gens. Il y a beaucoup de paramètres qui rendent... Je peux arriver à expliquer pourquoi la musique est aussi importante. C'est parce que, et surtout alors dans le cinéma français, où très souvent, contrairement au cinéma américain, les compositeurs travaillaient très tôt avec les réalisateurs et étaient choisis par les réalisateurs. Pour moi, un compositeur de musique qui va tout d'un coup dévoiler ses compositions, c'est le premier critique du film. Parce que ce que vous allez entendre, c'est ce qui a été inspiré par les émotions, les sentiments que vous avez voulu mettre dans vos images. Et si tout d'un coup, vous entendez des morceaux que vous trouvez formidables, vous vous dites, peut-être qu'il a été touché par ce que j'ai fait dans le film. Je pense que la musique de Jaubert pour La Talente, c'est la plus belle critique du film de Vigo qui existe. Parce que sa musique, littéralement, elle comprend toutes les intentions et l'achèvement formidable auquel parvient Vigo.
Alors, est-ce qu'un réalisateur peut avoir peur, parfois, de la place que prendrait le compositeur dans son cinéma ?
Mais bien sûr, récemment, ça s'est traduit... Alors, il y a aussi, il n'y a pas de règle. Il y a des films sans musique qui sont formidables. Et il y a aussi, maintenant, des metteurs en scène qui ne mettent que de la musique source.
Oui.
Tarantino, certaines personnes. Alors, soit parce qu'ils n'ont pas envie de se coltiner avec un compositeur, soit ils peuvent avoir peur qu'un compositeur leur vole quelque chose ou amène quelque chose qu'ils n'ont pas prévu, qu'ils ne contrôlent pas complètement. Moi, je trouve que la force de la création dans un film, c'est de ne pas tout contrôler. C'est tout d'un coup de faire naître autour de vous des contributions disparates de tout ordre, mais que vous allez reprendre à votre compte. Comme le disait Renoir, nous sommes des pillards. Il me disait, nous sommes des... Mais après tout, quand on prend une idée, le fait que vous la preniez, ça devient votre idée. Parce que d'autres l'auraient ignorée.
Elsa Boublil, Musique et moi, France Musique.
On va écouter maintenant le quintet composé en plusieurs étapes, d'ailleurs à partir de l'année 1919. Le premier mouvement de ce quintet pour piano et cordes numéro 2, opus 115 de Gabriel Fauré. Cet allegro moderato qui n'a pas été écrit en premier d'ailleurs, mais qui est considéré comme peut-être le plus beau premier mouvement qu'ait jamais écrit Fauré. Vous, ça correspond à quelle période de votre vie ? Parce que c'est un enregistrement de 1971 qu'on va écouter.
Oui. Je le découvre au début des années 80, je découvre ce morceau là et j'éprouve un choc et c'est là que je décide d'utiliser Gabriel Fauré comme presque seul musicien d'un dimanche à la campagne. Et ce que je suis en train d'écouter ne correspond pas à ce que j'ai lu sur Fauré. On parle de musique française, de salon, de musique comme ça très policée. Moi, j'y vois une musique vibrante, romantique, absolument... Je sais pas, il y a une émotion sourde dedans. une pulsation extraordinaire. J'y vois le contraire de la musique de salon. Je vois une musique de quelqu'un qui est écorché vif et qui ne peut pas, qui veut pas trop faire extérieur les sentiments, qui essaye de les retenir, mais qui a du mal à les retenir. Et je sais plus, c'était Ziegel, Jean-François Ziegel, qui parlant de forêt disait, sa musique le fait penser à un moine qui conduit une barque dans la brume et qui essaye de retrouver sa route. Je trouve que c'est une description tout à fait extraordinaire.
quatuor Via Nova avec Jean Hubaud au piano pour ce quintet pour piano et corde numéro 2, opus 115 de Gabriel Fauré, dans son premier mouvement Allegro Moderato. Bertrand Tavernier, vous parliez de cette musique que vous avez écoutée, dont vous aviez lu que c'était une musique de salon, et c'est pas du tout le sentiment que vous avez eu.
Ah ben non, j'étais face à une musique extrêmement lyrique, avec un élan, une énergie. C'est d'ailleurs une musique horriblement difficile à couper, à monter, pour l'arrêter. Là, on en a bavé. Hein, pour prendre des extrêmes, on montait, on passait des heures et des heures pour trouver le moment, parce qu'elle repart sans cesse. Elle est continuellement en mouvement, et au moment où on croit qu'il va y avoir un motif qui s'arrête, de manière sous-jacente, il y en a un autre qui redémarre.
Alors ça vous plaît, vous?
Ça me plaît, mais après, quand on doit monter ça, c'est difficile. C'est une musique qu'on jouait sur le plateau, d'un dimanche à la campagne. Moi, je rythmais les mouvements de caméra sur cette musique.
Ça veut dire que vous le mettiez en fond?
Oui, je le mettais en fond, quand il n'y avait pas de dialogue, évidemment. Mais pour tous les plans de caméra muets, on utilisait ça pour avoir la bonne vitesse de la caméra.
Alors quand on voit votre film, hein, Voyage à travers le cinéma français, on s'aperçoit que c'est pas, vous n'innovez pas en faisant cela, mais quand on connaît votre cinéma, on se dit, chez Bertrand Tavernier, au fond, la musique serait presque un personnage.
Absolument, mais moi j'entendais des compositeurs qui disaient, souvent américains, qui disaient qu'ils en avaient un peu marre. Ils étaient souvent choisis quand le montage était terminé, et puis on leur disait, on va vous montrer le film si ça vous plaît. Et moi, ça n'a jamais été le cas. Moi, le musicien, il fait partie du projet dès le début. Il lit le scénario, il assiste à des essais. Très souvent, je demande des musiques, parce qu'il y a des chansons dans mes films, donc je veux qu'on compose ça avant. Oui. Pour cause, puisqu'il va falloir les... Et j'ai besoin de travailler avec un musicien très très tôt, puis de me dire qu'est-ce qu'on va prendre comme genre d'instrument, quelle va être la couleur de l'orchestre.
Donc dans l'écriture scénaristique, la musique apparaît.
Je trouve qu'un compositeur, c'est pas quelqu'un qui doit illustrer un scénario, c'est un scénariste, un des scénaristes du film.
Alors ça nous fait aller directement vers votre collaboration avec Antoine Duhamel.
Oui, bien sûr.
Qui a su à chaque fois reprendre, arranger des pièces que vous aviez entendues. Comment ça se passait?
Oui, il a fait aussi des compositions originales comme La mort en direct ou Dany Nostalgie, mais là pour que la fête commence, je voulais utiliser la musique du régent. J'avais lu que le régent de France, Philippe d'Orléans, avait composé un opéra. Donc j'avais envoyé mon assistant faire des recherches, et il avait trouvé le manuscrit. Ce manuscrit qui n'avait été compulsé que par un étudiant américain. Et personne d'autre s'était intéressé à ce manuscrit que Laurent Henneman a recopié. Il l'a montré à Antoine Duhamel, il fallait recopier des bouts. Et Antoine a dit, ça l'a excité. Il est allé à la bibliothèque et il a travaillé d'après le manuscrit sur cette musique, qui est donc une musique qui est écrite par la personne qui gouverne l'État français à ce moment-là. Imaginons un opéra composé par Nicolas Sarkozy, François Hollande.
Voici Forlan de Panté, extrait de l'acte 4, composé donc par Philippe d'Orléans et arrangé par Antoine Duhamel.
Thank you.
Extrait de l'acte 4 de Panté, oui. De Philippe d'Orléans, donc arrangé par Antoine Duhamel. Et justement, j'avais envie d'évoquer avec vous la collaboration un peu plus en détail, Bertrand Tavernier, avec Antoine Duhamel, parce que ce sont plusieurs collaborations. Et je pense aussi à cet arrangement qu'il avait pu faire des Pêcheurs de Perles, me semble-t-il.
Oui, il avait écrit la musique originale de Laissez-Passer. Dedans, il avait fait un travail extraordinaire sur les Pêcheurs de Perles de Bizet, en partant de l'enregistrement original de Tino Rossi, auquel petit à petit il venait ajouter des percussions, des accords plus modernes, jusqu'au moment où sa musique supplantait la version de Tino Rossi et partait comme ça d'elle-même. J'avais eu des frissons à l'enregistrement, et chaque fois que j'écoute ce morceau, ça me donne encore la chair de poule. Oui, Antoine était quelqu'un d'extraordinaire que j'avais connu quand j'étais attaché de presse de Bourgard. Je crois que c'est moi qui l'avais amené, parce qu'il avait fait la musique d'un de mes sketchs, et je l'avais présenté à Godard, et il a fait la musique de Pierrot le Fou, qui est une des plus belles musiques du cinéma français. Il a fait Pierrot le Fou, il a fait Weekend, et il a travaillé plusieurs fois, justement dans La Mort en Direct, dans Daddy Nostalgie, dans Laissez-Passer. Je le retrouvais périodiquement.
Et c'est aussi pour ça que je disais que la musique était comme un personnage dans votre cinéma, oui, Bertrand Tavernier, encore même dans votre dernier film, hein, Voyage à travers le cinéma français. Mais on peut écouter à la fois les bandes originales de vos films, oui, à part entière, sans avoir vu le film, en ayant l'impression de faire un voyage à travers votre film. Oui. Je pense par exemple à Ça commence aujourd'hui, signé, oui, Louise Clavis, qui avait ce talent-là. Et bien sûr, on en vient à l'un de vos films qui ont marqué, puisqu'il a eu... je crois un Oscar, Autour de minuit.
Oui.
Qui est un film magistral sur l'histoire du jazz, tourné, réalisé par un réalisateur français qui parle quand même de la musique noire américaine.
Oui. Et récemment, c'est ce que m'a dit, il y a eu un hommage au film qui a été fait, et il y a eu un poète américain qui est aussi un des plus grands connaisseurs sur le jazz, qui a dit, écoutez, c'est la première fois dans le cinéma américain qu'il y avait quelqu'un qui faisait un film sur le jazz, vraiment, mais sur un héros noir. Tous les films sur le jazz étaient consacrés à des jazzmen blancs, de Gene Cooper à Benny Goodman. Chet Baker, c'est très très tard. Ouais. Là, à l'époque, c'était Artie Shaw, c'était des gens comme ça, Tommy Dorsey. Mm. On ne parlait que des musiciens blancs, en autorisant Louis Armstrong à faire une apparition dans un film, mais pas lui donner le rôle principal.
Voici un extrait de la bande originale du film Autour de minuit, donc de Bertrand Tavernier, avec ce thème principal Round Midnight, signé Thelonious Monk, interprété par Bobby McFerrin et Herbie Hancock, et Ron Carter et Tony Williams. Thank you. Round Midnight, interprété par Bobby McFerrin, Herbie Hancock, Ron Carter, Tony Williams, extrait de la bande originale du film de Bertrand Tavernier autour de minuit. Je me disais, en écoutant cela, Bertrand Tavernier, au fond, vous disiez avoir voulu rencontrer l'amour de votre vie, Duke Ellington, vous en parliez en début d'émission, oui. Toute votre vie. Est-ce que c'est cet amour-là qui vous a porté vers ce film, cette histoire autour de Dexter Gordon?
Oui, je pense. Et du coup, j'ai rencontré des gens extraordinaires. J'ai rencontré Dexter Gordon, Herbie Hancock, Ron Carter. C'est lui qui écrivait toutes les fins d'arrangement des morceaux. Quand il y avait un problème, pof, Ron Carter, hop, il trouvait tout de suite le c'était aussi un arrangeur extraordinaire. Bobby Hutcherson, tous, Wayne Shorter, des gens exceptionnels.
Comment vous avez été accueilli par eux? Parce que vous êtes
formidablement. Formidablement, ils ont vu que à la fois je leur faisais confiance, ils m'ont fait confiance, ils m'ont donné beaucoup de choses très très fortes. Au début, ils avaient peur. Dexter m'a dit, après, on rencontre tellement de gens qui nous font miroiter des choses exceptionnelles et puis jamais rien n'arrive, que là on pouvait être méfiant au début. Ouais. Et puis après, on a vu que il y avait un vrai désir et Lady Bertrand, comme il m'appelait.
Lady Bertrand.
C'est formidable. Et d'ailleurs, après, Henri Texier a écrit un morceau en hommage à moi qui s'appelait Lady Bertrand. C'est un beau morceau dans un disque. J'ai été content d'avoir un morceau qui m'est dédié. C'est le comble pour un amateur de jazz. Ça, c'est un moment de bonheur suprême.
Et alors, justement, quelle position aviez-vous? Celle d'un amateur éclairé
mais d'un amateur qui voulait apprendre aussi, qui n'avait aucune des œillères qu'ont les spécialistes, qu'ont les gens qui sont dogmatiques et qui se conduisent vis-à-vis que ce soit le jazz et le cinéma, qui se conduisent comme les gardiens de square. Mmh. Il est interdit de marcher sur la pelouse, il est interdit de dire ça, de penser ça, d'aimer ça. Je trouvais des musiciens beaucoup plus ouverts et des gens formidables et qui ont été séduits par ce que j'osais, c'est-à-dire qu'on enregistrait tout en direct avec le risque que les gens soient pas bons.
Elsa Boublil, Musique et moi, France Musique.
Alors, ce voyage à travers le cinéma français vous a permis, Bertrand Tavernier, de redécouvrir des bandes originales de films que vous aviez peut-être oubliées. Vous me disiez avoir redécouvert la musique du Salaire de la peur.
Oui. Et on va la passer maintenant et ce serait marrant que les gens donnent des noms sur qui a pu écrire cette musique.
Le Salaire de la peur, un film franco-italien, je crois, réalisé par Henri-Georges Clouzot.
Oui, moi je me suis amusé à passer cette musique à des tas d'amis et qui disaient tous Ennio Morricone.
Et alors, donnez la réponse, Bertrand Tavernier.
C'est Georges Auric, oui. Et c'est une musique composée 10 ans, 12 ans avant qu'Ennio Morricone commence à écrire.
Mais c'est vrai que ça sonne italien, comme Ennio Morricone.
Mais on retrouve ce mélange de percussions, d'instruments ethniques, ces thèmes sud-américains qui sont joués avec un seul instrument, qui est une chose dont Morricone va raffoler, un espèce de petit thème lyrique au milieu d'une écriture très percussive, là, et c'est Auric qui trouve ça. De même que si on faisait écouter la musique de La Vérité sur Bébé Donge à des gens, beaucoup diraient c'est Philippe Glass. Or, c'est Jean-Jacques Grunenwald qui, très longtemps avant Philippe Glass, impose un système de musique répétitive qui est absolument admirable dans ce chef-d'œuvre d'Henri Lecoing.
Alors c'est toujours un plaisir de vous entendre, Bertrand Tavernier, parler de musique, c'est vrai, et du cinéma. Et alors j'avais envie de vous demander s'il y a des films que vous avez appris à aimer avec le temps.
Ah oui, bien sûr, il y a des films que j'aimais bien, mais que j'aimais parce que on m'avait dit qu'il fallait les aimer. Mmh. Et puis, tout d'un coup, en les revoyant, j'ai découvert que c'était des films qui me bouleversaient. Je pense au Jour se lève, je pense à certains films comme ça. Oui, bien sûr.
Qu'est-ce qui fait que c'est possible? C'est parce que
parce qu'on mûrit aussi.
Voilà, c'est ça.
Parce qu'on grandit, parce qu'à un moment aussi on oublie. Quelquefois on s'est peut-être privé de certaines joies parce que on voulait adhérer à telle opinion à la mode, on voulait un peu jouer les malins, moi je regrette parfois d'avoir pas été plutôt vers certains cinéastes parce que c'était pas dans l'air du temps. On vous disait attention, ces cinéastes sont démodés, sont pas intéressants, et puis finalement si, ils étaient intéressants. Et souvent, je trouve qu'en France, il y a eu trop d'admiration qui était en même temps basée sur la destruction de tout autour de ce qu'on admirait. Je trouve que Truffaut avait raison d'admirer Hitchcock. Il avait tort, totalement tort, de crier qu'il n'y avait pas de cinéma anglais.
Bah nous, on va rester avec un compositeur anglais, oui. Benjamin Britten.
Et Benjamin Britten, que j'ai commencé à découvrir dans des documentaires anglais. Parce que à l'époque où Cavalcanti produisait des documentaires qui étaient formidables, très souvent, excusez du peu, le commentaire était écrit par le poète John Oden et la musique était confiée à Benjamin Britten. C'était pas mal.
Et alors ce War Requiem fait partie de ces musiques que vous avez aimées, appris à aimer avec le temps.
Que j'ai appris à aimer avec le temps, comme les opéras de Britten, dont je suis fou, que ce soit Billy Budd, Le Tour des Crous ou Peter Grimes, qui sont des opéras que je trouve extraordinaire.
Et c'est difficile d'entrer dedans, c'est
non,
parce que
non, finalement, les opéras, non. Parce que, je sais pas, moi, quand j'ai vu, mise en scène par Luc Bondy, Le Tour des Crous, on rentrait dedans de manière... c'est magnifique, cette adaptation d'Henry James.
Mais le Requiem, par exemple, qui a été...
Le Requiem, non, c'est porté par une telle foi pacifiste, un tel esprit dirigé contre la guerre, qui est au cœur de cette œuvre et de beaucoup d'œuvres de Britten, comme Billy Budd, par exemple.
Thank you.
le chœur de l'école de Highgate et l'orchestre symphonique de Londres sous la direction de Benjamin Britten dans ce Requiem War, Requiem de Benjamin Britten dans son premier mouvement, le Requiem Aeternam, qui nous emmène vers la fin de l'émission. Bertrand Tavernier, j'avais envie de revenir sur ce voyage à travers le cinéma français, parce que il a quelque chose, je le disais tout à l'heure, de très pédagogique ce film, mais simplement, j'avais envie de vous demander, pourquoi avez-vous voulu nous faire découvrir le cinéma à travers votre regard à vous ?
D'abord, pour remercier les gens de m'avoir ébloui, de m'avoir donné des joies immenses, et je trouve qu'on a une dette, et je trouve qu'on doit un peu la payer. Si je fais du cinéma aussi, c'est parce qu'il y a des gens avant moi, il faudrait que d'autres que moi en aient conscience, que des gens se sont battus, ont lutté, ont affronté souvent des financiers, la censure, des producteurs, des distributeurs, des exploitants. Et ils ont pu obtenir une forme de liberté pour les cinéastes que nous sommes. C'est grâce à eux. Et en plus, ils ont fait des films formidables. Et de les voir relégués comme, sous un mot, les vieux films, c'est quelque chose qui m'exaspère, qui me rend malade. Mais comme disait d'ailleurs Godard, on ne dit pas, quand on parle d'un livre de Stendhal, on ne dit pas un vieux livre. On ne dit pas je lis un vieux livre. Et de parler de Becker, de Renoir, et aussi de cinéastes moins connus. Moi, c'est aussi ce qui m'intéresse, de défendre Eddie Constantine, Cet homme est dangereux, de défendre certains films de Delannoy, metteur en scène vilipendé, mais qui a fait deux, trois films qui méritent le respect, qui mérite qu'on s'incline devant eux. Le Garçon sauvage est un chef-d'œuvre. Mon ami Edmond Tégréville, aussi bien que Jean-Pierre Melville. Voilà, de leur dire merci et de parler comme ça de la France, de la fierté d'appartenir à ce cinéma, de le dire maintenant, que ce cinéma que les chaînes de services publics ont de plus en plus de mal à diffuser. Je trouve que c'est une honte. Cette crainte devant le passé me semble la pire porte ouverte à toutes les ignorances et à toutes les dérives. Et c'est là-dessus que se construit la sottise.
Et c'est pour cela que j'aimerais finir avec vous, Bertrand Tavernier.
En se marrant un peu.
Voilà, une petite note d'humour. Comment prendre la musique classique accessible à tous? Francis Blanche s'y est essayé.
Oui, alors Francis Blanche, qui est un parolier de génie, il faudrait un jour faire un immense hommage, une journée à France Musique consacrée à Francis Blanche. Débit de l'eau, débit de lait, c'est lui. Et enfin, des tas des milliers de chansons et de textes formidables. Le prisonnier de la tour. Et il a écrit plusieurs chansons sur des thèmes de musique classique. Moi, c'est comme ça que j'apprenais, que je découvrais dont la pince à linge sur la 5e symphonie de Beethoven.
Alors, on va écouter les 4 barbus pour terminer cette émission avec Bertrand Tavernier, qui était donc l'invité ce matin de Musique et moi. Un grand merci à Jean-Michel Bernaud qui était à la prise de son ce matin. C'est Sophie Pichon qui a réalisé cette émission, assistée de Marie Ferdinand. Vous pouvez bien sûr écouter cette émission sur le site de francemusique.fr à la rubrique Musique et moi. Je vous souhaite un très beau dimanche à l'écoute de France Musique.
La pince à linge, la pince à linge,
lapin lapin, lapin lapin,
la pince à linge,
lapin lapin,
lapin lapin,
la pince à linge, la pince à linge,
la pince à linge,
la pince à linge,
la pince à linge,
lapin lapin,
ça. La pince à linge.
La pince à linge fut inventée
en 1887
par un nommé
Jérémy Victor Hoplebec,
fils de son père
et de sa mère,
neveu de son oncle et de sa tante,
et petit-fils de son grand-père,
frère de sa sœur et frère de lait d'un marchand de beurre.
La belle histoire.
Déjà quand il était enfant, il montrait à tous les passants son curieux esprit compétent. Il inventait des appareils pour épépiner les groseilles,
des muselières pour les fourmis. Et bien qu'il fût encore petit, c'était un mec Hoplebec.
C'était un mec, un drôle de mec, un fameux mec, et de Lubec jusqu'à la Mecque, il n'y avait
qu'un si chouette mec, Jérémy Victor Hoplebec.
Andante con moto.
Dans les champs près de chez son père, le linge blanc dans la brise légère semblait lui dire avec le vent, pince à linge, pince à linge, il faut ton linge fin et trop léger, une pince pour le passé,
pour le passé,
pour le passé.
Avec un petit bout de fil de fer
et un ressort en travers.
Vous saisissez cet instrument entre votre pouce et votre index.
Vous le serrez en appuyant
afin qu'il soit bien circonflexe.
Alors vous l'approchez du linge à faire sécher et vous lâchez.
Son génie a su doter les lavandières et blanchisseuses du monde entier. Des pinces à linge qui protégera la liberté, l'humanité. Pinces à linge, grâce à toi maintenant. Nos chemisettes, nos chaussettes résistent au vent. Et nos caleçons dorénavant répondront présents.
Et l'ouragan peut tonner.
L'orage se déchaîne. Nous, grâce à la pince à linge, on est protégé, paré, sauvegardé. On aura toujours de quoi espérer.
Amis, chantons en cœur la louange et l'honneur de notre bienfaiteur. Gloire à Jérémy Victor Optebec, Jérémy Victor Optebec, Jérémy Victor Optebec.
Bec, 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 bec. Bec, 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 bec.
Nous venons de vous proposer la rediffusion d'une archive datant du 12 février 2017. Bertrand Tavernier était l'invité de Musique et moi. L'entretien était mené par Elsa Boublil. Pour ma part, j'aurai le plaisir de vous retrouver la semaine prochaine pour entendre les musiques de chevet du neuropsychiatre Boris Cyrulnik. Bon dimanche à vous.
À réécouter sur francemusique.fr.